Depuis le début de la pandémie, se multiplient les tribunes, pétitions, initiatives émanant de la société civile pour construire le monde d'après. Les entités de la gauche entendent se rassembler derrière des collectifs portés par des associations, des syndicats. Ces propositions se forment aussi à droite, voire à l'extrême droite, puisque fleurissent de nombreux appels pour plus de souverainisme entre convergence des gauches, montée des discours à droite, à l'extrême droite, des discours populistes. Qui va profiter de la crise? Bonjour Pierre-Rose Envallon.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur au Collège de France. Cette multiplication des tribunes, des appels, que vous inspire-t-elle?
Eh bien, une première chose, c'est de voir que ceux qui ont l'initiative, ceux qui sonnent le tocsin, ceux qui réfléchissent, n'apparaissent pas être les partis politiques. La chose nouvelle, c'est que ce sont des syndicats, ce sont des associations, des ONG, qui semblent aujourd'hui aux avant-postes, je dirais, à la fois de la réflexion et de la proposition à gauche, très clairement. Alors, ça n'est pas évidemment le mois de mai, il y a eu une rafale, pourrait-on dire. À partir du 6 mai, il y avait Nicolas Hulot qui a publié ses 100 principes pour un nouveau monde. Après, il y a eu le Conseil national de la nouvelle résistance. Et puis, il y a quelques jours, les mesures préconisées en commun par la CGT, ATTAC et Greenpeace. Ça n'est pas tout à fait nouveau parce que dès la fin du mouvement des Gilets jaunes, il y avait eu le fameux pacte du pouvoir de vivre qui avait été signé par une vingtaine d'organisations, la CFDT, la Fondation Hulot, ATD Quart-Monde, la Fondation de l'Abbé Pierre, la CIMADE, etc. Ce qui est nouveau, me semble-t-il, c'est de voir, et c'est peut-être lié au moment social que nous vivons aussi, la place que jouent des organisations comme la Fondation de l'Abbé Pierre, les Restaurants du Cœur, dont on parle souvent, dont les responsables sont interviewés, ou de la CIMADE, de même que tous les mouvements d'économie solidaire apparaissent très très présents. Donc je crois que là on a un élément qu'on pourrait dire de redéfinition, je dirais, de la polarité politique dans laquelle de nouveaux acteurs apparaissent, et les acteurs qui avaient été tout de même les grands vaincus des dernières années, à savoir les syndicats, réapparaissent au premier plan.
Au fond,
ça c'est ce qu'on peut dire sur la forme, disons, parce que sur le fond, il faut parler du fond de ce qui est proposé. Alors, ce qui était proposé dans le pacte du pouvoir de vivre, juste après le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement d'alerte et de proposition pour essayer de répondre à tout ce qui était apparu de nouveau dans la société française avec les Gilets jaunes. Là, effectivement, tous les mouvements, tous les manifestes, les pétitions qui sont apparues depuis la crise du coronavirus sont des sens différentes parce que elles s'adressent à la question globale à la fois de la crise de société, des problèmes d'environnement et bien sûr aux questions sanitaires. Mais là, il y a une question d'ensemble qui se pose, c'est que à l'heure où nous nous trouvons aujourd'hui, ces différents manifestes ont fait apparaître de nouveaux acteurs, ont remis en selle, si je puis dire, les syndicats, mais en même temps, tous ces manifestes gardent tout de même un caractère extrêmement général. Ce sont soit, c'est le cas du dernier signé par CGT, ATTAC et Greenpeace, un peu des catalogues de revendications, et à l'inverse, je dirais Nicolas Hulot, c'était des principes d'une très grande généralité, puisque vous savez, c'est sans principe, le temps est venu, il disait, de transcender la peur en espoir, de résister à la fatalité, de réparer la planète. Là, on était vraiment dans les généralités les plus grandes. Donc, ces manifestes oscillent entre des déclarations d'intention les plus générales et on pourrait dire d'un certain point de vue les plus vagues, tout en suscitant une certaine unanimité, et de l'autre côté, des mouvements de revendication classiques. Mais ce qui caractérise tous ces différents manifestes, d'une certaine façon, c'est qu'ils ne s'adressent pas aux difficultés qu'il y a à résoudre pour mettre en œuvre ces projets d'un nouveau monde. Je crois que tout moment de crise est un moment où on se pose la question d'un nouveau monde. C'était vrai en 68, Et c'était vrai, effectivement, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour cela que un certain nombre ont mis en place un manifeste, ont mis en place un conseil national de la nouvelle résistance, et dont deux personnes qui ont joué un rôle éminent dans la résistance, Claude Alfandéry et Anne Beaumanin, ont parrainé en quelque sorte cette initiative. Mais il ne faut pas oublier que à ces moments clés, ça n'est pas simplement, je dirais, une espérance qu'il faut rappeler, ça n'est pas simplement une volonté de changement qu'il faut affirmer, mais ce sont des contradictions ou des questions qu'il faut résoudre. N'oublions pas qu'au moment des Gilets jaunes, on a souvent opposé la fin du mois et la fin du monde. Aujourd'hui, on fait un peu dans tous ces manifestes comme si le problème était résolu, et il ne me semble pas que ce soit encore le cas. Regardez sur les questions de fiscalité verte, de la fiscalité visant à aider à la réduction du CO2, bien, on a vu justement que le mouvement, il y a quelques années, des bonnets rouges, et puis plus récemment des gilets jaunes, était parti du refus de cette fiscalité. Si on veut décarboner, si on veut décarboner l'énergie, eh bien, il faut savoir comment on va traiter le problème de la transition du nucléaire. Et toutes ces difficultés, il me semble qu'il va falloir bientôt entrer dans un moment où il ne faudra pas seulement partir, je dirais, de l'envie de changement, de l'envie d'un nouveau monde qui est là indéniablement, mais il faudra parler des difficultés auxquelles il faut faire face, des contradictions qu'il faut résoudre pour y arriver. Sinon, le risque est grand de voir se succéder après ces déclarations, ces envies de changement, eh bien, une forme de retour à la normale, qui sera un retour à la normale qui ne s'effectuera pas de façon silencieuse. C'est un retour à la normale qui s'opérera dans un climat de révolte, dans un climat d'insatisfaction très profond. Dans ce climat-là, on sait bien dans l'histoire, eh bien, que ce sont les mouvements d'extrême droite et souvent, plus largement, dirions-nous, les mouvements populistes qui en profitent.
Mais alors, justement, Pierre Rosanvallon, qu'est-ce que la pandémie change? On voit donc ces tribunes, ces appels se multiplier. Pourquoi maintenant? Quelles circonstances particulières avec la pandémie? Quelle est en quelque sorte la manière dont cette épidémie change la donne, d'après vous?
Ben, vous savez, il y avait eu après 1968, au début des années 70, un magazine écolo lancé par GB, et qui disait on arrête tout et on réfléchit. Eh bien là, nous avons tous été, d'un certain point de vue, arrêtés, et nous avons pour cela pu réfléchir. Il y a cette dimension, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'événement que nous vivons, il n'est pas terminé. On fait comme si la crise du Covid, nous la connaissions. Non, nous ne la connaissons pas. Nous ne savons pas s'il y aura ou non une résurgence de l'activité du virus cet été ou à l'automne. Nous ne savons pas si pendant un an, et ce n'est pas improbable du tout, nous serons obligés de continuer à maintenir des distances sociales et à vivre masqués. Nous ne savons pas, même si on annonce qu'elle sera terrible, nous ne savons pas quelle sera l'ampleur de la crise qui s'annonce devant nous. Donc je crois qu'il ne faut pas faire comme si l'événement auquel nous étions confrontés, nous le connaissions. Cet événement, nous sommes dans un moment de crise, mais ce moment de crise, il n'est pas terminé et son ampleur, nous l'ignorons encore, ce qui invite à la fois à beaucoup de modestie, d'une part, et puis d'autre part, à la préparation, enfin, la préparation, je dirais, social et intellectuel aussi, à vivre peut-être un des moments les plus dramatiques du XXe siècle,
Mais
qui
alors,
n'aura pas de
justement,
caractère
Pierre
dramatique.
Rosanvallon, parce que la crise sanitaire, effectivement, nous ignorons sa physionomie dans le futur. On ne sait pas, comme vous le dites, si la pandémie va disparaître, perdurer, sous quelle forme. En revanche, la crise économique, on sait quasiment de science certaine qu'elle est là. Est-ce un moment opportun pour multiplier les tribunes? Est-ce précisément parce que la crise est là qu'il faut multiplier ses appels? Et est-ce la raison pour laquelle, notamment, beaucoup de gens de gauche se lancent dans cette entreprise-là?
Se lance dans une entreprise qui appelle à une mobilisation des esprits, qui appelle à un réveil, pourrait-on dire. Eh bien, ça, c'est évidemment extrêmement positif, parce qu'effectivement, nous sortons d'un espèce de lent engourdissement. Et je
Pourquoi?
crois que l'événement, engourdissement pour une raison très simple, ce n'est pas simplement parce qu'il y avait un pouvoir politique que beaucoup critiquent qui semblait être sûr de lui, mais c'est aussi un engourdissement parce qu'au fond, les idées neuves et les propositions neuves n'étaient pas très nombreuses. Si la critique du gouvernement était facile, l'imagination justement d'un nouveau monde était beaucoup moins claire, sauf évidemment, quand on en reste aux propositions les plus générales, en disant qu'il faut de la justice sociale, qu'il faut davantage de frugalité, qu'il faut être attentif à garder des éléments de souverainisme dans un certain nombre de domaines, et qu'il faut également se préparer à des formes, enfin, et préparer des formes de redistribution sociale et fiscale. De cela, tout le monde peut être d'accord, mais la question va être de savoir si les événements vont bousculer ces attentes ou s'ils vont les confirmer. À partir du moment où il va y avoir le risque de licenciement très important, eh bien, le danger est grand que ce soit la fin du mois qui prennent le premier pas sur la fin du monde et que le problème sera le retour à la normale et non pas, je dirais, l'entrée
Eh oui.
dans un nouveau monde.
On va continuer d'évoquer cela avec vous, Pierre Rosanvallon. Vous êtes historien, professeur au Collège de France. J'ai sous les yeux la une de l'Humanité. Les jours heureux s'invitent dans le débat public. Il est question de commémorer l'appel du CNR, le Conseil national de la Résistance, dont se réclament certaines personnalités de gauche pour le Conseil national de la nouvelle Résistance, qui a publié un appel. Et on va continuer de voir dans une vingtaine de minutes, donc aux environs de 8h20 avec vous, Pierre Rosanvallon, comment peut s'articuler ces nouvelles utopies face à cette dystopie, à cette période marquée par le coronavirus qui aujourd'hui, eh bien, appelle toutes nos énergies. Il est 8h sur France Culture.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Herner.
Et nous retrouvons notre invité Pierre Rosanvallon, historien, professeur au Collège de France. On l'a vu, depuis le début de la pandémie, se multiplient les tribunes, pétitions et initiatives. Et vous avez dit, Pierre Rosanvallon, que l'un des points communs, peut-être le seul point commun de ces différents appels, c'est qu'aucun n'émanait de partis politiques. Votre réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïs suite à une étude pour tenter de restaurer le rôle des partis politiques, est-il possible de gagner cette partie-là, le retour des partis, Pierre Rosanvallon?
Oui, je pense qu'on ne peut pas se contenter de parler des partis comme institution. Il faut partir des fonctionnalités des partis politiques. À quoi ils servent? Les partis politiques ont deux fonctionnalités. Des fonctionnalités institutionnelles, et la première de ces fonctionnalités, c'est qu'ils sont au cœur de la vie des institutions publiques. Et pour une raison très simple, c'est que les partis politiques sont au cœur de la vie électorale. Les partis politiques, ce sont les grandes machines à organiser les élections, à sélectionner les candidats. Donc il y a cette fonctionnalité institutionnelle. Là, elle devrait un petit peu changer parce qu'on se rend compte que l'élection ne peut pas simplement être le seul cœur de la vie démocratique. Après tout, l'expérience qui était récemment faite d'une conférence citoyenne sur le climat montre qu'il y a d'autres façons, d'autres institutions qui sont nécessaires pour organiser la vie publique. Et puis, les partis ont des fonctionnalités démocratiques. Ils devraient avoir des fonctionnalités de représentation, d'animation du débat public, de proposition de programme, disons, de donner des couleurs à l'avenir. Et de ce point de vue-là, on voit que les fonctionnalités institutionnelles des partis se sont rabougries, vraiment sur l'élection au sens le plus trivial du terme, et que leurs fonctionnalités démocratiques, et c'était très justement dit dans la chronique, ces fonctionnalités démocratiques elles-mêmes se sont étiolées. Ils représentent moins la société, ils participent moins, ils sont moins au cœur de l'animation du débat public, ils sont moins au cœur de la proposition. Et il faut garder les partis politiques pour une raison très simple, qu'ils jouent ce rôle absolument incontournable dans les élections, mais ce qu'il faut faire vivre d'abord, ce sont les fonctionnalités démocratiques. Ce qu'il faut faire vivre, c'est la représentation, c'est le débat public, c'est les propositions le débat sur l'avenir. Ce sont aussi des formes de démocratie post-électorale. Donc, oui, il faut consolider, reconnaître les partis, mais il faut en partie aussi dépasser les partis politiques pour que ces grandes fonctionnalités démocratiques trouvent leur place, notamment pour la représentation de la société. C'était facile de représenter la société quand il y avait la classe ouvrière, la classe moyenne, les petits commerçants et les patrons d'entreprises. Cette société était organisée autour de quelques classes sociales bien délimitées et c'était facile de les représenter. Maintenant, la société est un millefeuille beaucoup plus complexe, où il n'y a pas simplement les conditions sociales, mais les particularités biographiques, la façon dont chacun estime son rapport aux autres, qui font que la représentation de la société, c'est pas simplement représenter en bloc des grands groupes sociaux, mais c'est parler des problèmes que vivent les gens, des épreuves qu'ils traversent, et donner le sentiment qu'on s'adresse à chacun personnellement, parce que cela, dans un discours politique trop général, au fond, ça glisse sur la réalité, ça ne la pénètre pas. Et moi, je plaiderais pour revivifier toutes ces fonctionnalités démocratiques. Si les partis politiques peuvent jouer un rôle plus important qu'aujourd'hui pour les faire vivre, c'est sûr, mais ils ne doivent pas, ils ne peuvent pas être les seuls à les faire vivre.
Alors, on évoquait les références qui sont aujourd'hui agitées. J'ai sous les yeux l'Humanité du jour qui reproduit le programme du Conseil national de la résistance dans son intégralité, avec cette référence qui a été utilisée à la fois par le président de la République et par différentes personnalités de gauche opposées au président de la République, cette référence aux jours heureux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça signifie le fait de se référer à cette période-là? Est-ce pertinent? Est-ce que cela peut avoir une puissance, une efficacité aujourd'hui, Pierre Rosanvallon?
Oui, ça peut en avoir une, pour la raison très simple, c'est que les moments d'épreuve ont été aussi des moments de nouveau départ, des moments de réflexion. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la sécurité sociale et de l'État-providence. Eh bien, cet État-providence, dans le cas français, mais on peut dire dans le cas européen, beaucoup plus largement, il s'est développé sur la base de deux chocs, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Le premier grand moment d'établissement de l'État-providence en France, c'est 1828, et le deuxième grand moment, c'est bien 1945. Et le préambule de l'ordonnance créant la sécurité sociale en 1945 disait très exactement « Après les terribles épreuves que nous venons de vivre en commun, le temps est venu d'un nouvel âge de la solidarité ». Et c'est ça la grande question. Est-ce que l'épreuve que nous avons vécue en commun, que nous sommes en train de vivre en commun ou que nous commençons de vivre en commun, elle produira un sens plus fort de solidarité? Cela, on peut le désirer, il faut le favoriser, mais ça n'est pas donné d'avance. Ça n'est pas donné d'avance parce que l'unanimisme qui entourait un petit peu les idées du Conseil national de la résistance, il est beaucoup moins présent aujourd'hui. Cet unanimisme, il est moins présent parce que les forces, je dirais, de l'impatience, de la colère, de la mise en accusation, qui sont celles du populisme aujourd'hui, elles sont tout de même, elles ne vont pas du tout dans cette direction-là. Elles vont d'abord dans la direction de la démonisation des pouvoirs, quels qu'ils soient. Elles vont dans le sens de l'imputation à des complots de toutes les difficultés qui arrivent. Elles ne sont pas des forces de construction, je dirais, ce qui était le cas du Conseil national de la résistance, mais ces mouvements populistes, elles sont au contraire des forces, je dirais, de clivage dans la société, des forces de destruction du commun dans la société d'une certaine façon. Et si aujourd'hui nous avons ces manifestes ou ces réflexions positives, n'oublions pas aussi que dans de nombreux pays européens, il y a une violence d'extrême droite qui refait surface. Regardons que l'Allemagne bat des records de mouvements d'extrême droite qui sont à la racine, y compris avec des attaques armées, d'attaques antisémites, d'attaques anti-musulmanes et d'attaques sociales beaucoup plus largement. Donc nous sommes dans un mouvement, dans un moment qui peut être un mouvement de reconstruction, mais qui est un mouvement menacé aussi par ces formes de violence, de destruction et d'illusion. Les marchands d'illusions sont aussi forts aujourd'hui que les marchands d'avenir et d'utopie positive.
Mais alors, justement, vous qui êtes historien, Pierre Rosanvallon, parce que les différents moments où la France a conquis un certain nombre de mécanismes d'entraide, de solidarité, il y a bien entendu le Conseil national de la résistance, dans les circonstances historiques que l'on sait, il y a d'autres figures également de conquête de ces acquis sociaux, par exemple quelqu'un comme Villermé qui était un médecin français qu'on considère généralement comme l'un des fondateurs de la médecine du travail, l'un des fondateurs de l'assistance publique, ça c'est le milieu du 19e siècle, et on a plutôt affaire à un conservateur, donc ça peut aussi être le conservatisme ou la droite qui apporte un certain nombre d'avantages ou d'acquis sociaux, même si cela évidemment ne plaira pas à ceux qui se réclament de la gauche pour en demander.
Ne faisons pas les difficiles. Vous savez, Bismarck avait une formule fameuse. Il disait, pour éviter les révolutions sociales, il faut être capable de faire des réformes fiscales. Et il était, ce Bismarck, il a été un des pionniers, si je puis dire, de l'État-providence allemand, puisqu'il est le premier à avoir mis en place des mécanismes d'assurance maladie et de retraite. Vous savez qu'il y a, on parle parfois d'un conservatisme de la peur. Le conservatisme de la peur, il produit des mécanismes de repli, de retrait, de défense, mais il peut produire aussi à certains moments une acceptation des réformes pour justement éviter une révolution. Donc il faut prendre cela en compte, et beaucoup de réformateurs du 19e siècle, vous citez Villermé qui a été un des fondateurs de la revue d'annales d'hygiène publique et de médecine légale, mais ce Villermé était un conservateur parce qu'il pensait, il avait une vision, je dirais, doloriste de la classe ouvrière comme des malheureux qu'il fallait secourir parce qu'ils étaient incapables d'autonomie. La grande différence entre, je dirais, le conservatisme qui accepte des réformes sociales et la gauche, c'est que du point de vue de la gauche, la société est un acteur positif sur lequel on compte, alors que pour la droite, la société, c'est un malade qu'il faut calmer, ou bien c'est tout simplement un ensemble d'individus qu'il faut prendre par la main pour les guider comme des enfants.
Alors justement, il y a dans tous ces appels au monde d'après l'idée qu'il faut changer les choses. Et si les choses avaient déjà changé, Pierre Rosanvallon, il y a par exemple eu cette phrase d'Emmanuel Macron au début du confinement, expliquant qu'il fallait lutter quoi qu'il en coûte contre cette maladie. Et effectivement, un grand nombre de pays, pourtant situés dans l'économie libérale, ont décidé de désencastrer l'économie de la lutte contre cette pandémie, avec un coût qui apparaît aujourd'hui comme étant gigantesque. On parle de 500 milliards, de 750 milliards d'euros pour venir en aide aux économies. Et si on prend justement l'économie libérale, comme le faisait par exemple l'économiste Pogliani, en la définissant comme une économie où le social est encastré dans l'économique, l'anthropologique, est-ce que justement on n'a pas affaire pour la première fois à une dissociation des deux, c'est-à-dire une action publique de grande ampleur qui ne tient pas compte des conséquences économiques dans un premier temps?
Oui, mais on peut dire que de même qu'il y a un état sanitaire d'urgence, on peut dire qu'il y a un état fiscal ou un état état économique d'urgence et qui a joué à plein de ce moment, dans ce moment présent. C'est la nécessité d'un sauvetage dans un contexte où les taux d'intérêt sont extrêmement faibles, parce que les conditions dans lesquelles l'État argentin peut aujourd'hui faire face à la pandémie ou brésilien ne sont pas comme en Europe, parce que les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes. Il y a tout de même cette différence fondamentale. Le problème est de savoir et de constater que ce n'est pas une conversion à une nouvelle conception du rapport entre l'État et la société, mais c'est une mesure d'exception. Regardons l'Europe. L'Europe va investir dans des plans d'aide aux entreprises et aux pays 750 milliards d'euros. Mais en même temps, le budget européen reste à 1% du PIB et on ne voit aucun mouvement en Europe pour avoir une augmentation du budget européen. Donc d'un certain point de vue, on est dans une période où on vit des changements considérables, on vit des enthousiasmes même pour cette capacité à réagir économiquement, notamment au niveau européen, mais en même temps, on ne peut pas s'en donner des moyens supplémentaires. De la même façon, l'État a injecté des sommes considérables pour limiter les effets de la suspension d'activité. Après, ce sera la crise économique, ce sera autre chose. Mais en même temps, on voit le ministre des Comptes publics affirmer qu'il n'est pas question d'augmenter les impôts. Si nous voulons avoir de meilleurs services publics d'une manière ou d'une autre, il faudra que le prélèvement fiscal augmente. Ensuite, il s'agira de discuter comment ce partage.
Ou alors que le PIB, pardonnez-moi, je vous ai coupé, Pierre Rosanvallon, ou alors que le PIB augmente. Si on prend par exemple l'Allemagne, l'Allemagne a des hôpitaux qui sont, semble-t-il, mieux dotés que les nôtres. Ils sont mieux dotés, pas tellement parce que la part du PIB qui leur est consacrée est plus importante, mais parce que le PIB allemand est plus important.
Bien sûr, il y a cette dimension-là, mais on sait aujourd'hui que la perspective ne peut pas être de retrouver la croissance des Trente Glorieuses. Or, tout l'État-providence moderne en Europe s'est construit avec, dans ce contexte, des 30 glorieuses. Et après, on a essayé de le maintenir à flot, si je puis dire, mais ça n'a pas été le moment de l'invention. Et si on prône pour une économie plus frugale, parce que moins consommatrice d'énergie, eh bien, nous n'aurons pas des ressources supplémentaires qui viendront sans répartition supplémentaire, cela me semble absolument évident. Or, notre vision de la société aujourd'hui, là, il y a toute une façon, si vous voulez, de parler des inégalités qui me semble mettre le doigt sur le point central de nos sociétés, mais manquer l'essentiel de la question aussi. Parce que bien sûr, les inégalités, on pense tout de suite au 0,01%, au salaire faramineux des cadres dirigeants d'entreprise et puis aux très grandes fortunes, type Bernard Arnault. Mais il y a aussi beaucoup d'inégalités plus souterraines, plus petites, dont les gens souffrent dans la société, qu'ils expriment mal. Donc, parfois, la façon dont nous analysons la société, cet exemple des inégalités me semble probant, est une façon de penser la société qui ne nous permet pas forcément de bien la réformer. Et l'échec de la réforme sur les retraites l'a montré. Parce que la réforme sur les retraites partait d'une vision tout à fait abstraite que l'on pouvait discuter et approuver éventuellement une façon tout à fait abstraite de concevoir la société, alors que la réalité, c'était celle de tout un entrelacs de différences que chacun mesurait précisément. Et là, on passait par-dessus tout ce maillage de différences, de petites inégalités auxquelles les individus sont extrêmement sensibles. Donc, si on veut penser le changement social, il faut aussi partir de la société réelle et pas simplement d'une société imaginaire un peu simplifiée ou simplificatrice. Parce que si on part d'une société un peu simplifiée, ceux qui triomphent, c'est les champions de la simplification. Et les champions de la simplification, bien sûr, c'est la vision populiste. Et si nous sommes amenés à avoir un prochain face-à-face politique entre ce que représente le libéral conservatisme du gouvernement actuel et le populisme, c'est, je dirais, la démocratie qui va être en danger. C'est pour cela que le fait d'une reconstruction, je dirais, intellectuelle et presque mentale de la gauche qui sous-tend l'ensemble de ces appels est absolument nécessaire. Car oui, il y a un vrai débat sur l'avenir de la société, entre une vision souverainiste, protectionniste, populiste, avec ses accents de xénophobie, de simplification démocratique qui est extrêmement puissant. Parce que le populisme, ça n'est pas simplement une réaction, une colère, une impatience. Le populisme, c'est aussi une vision très claire, hein, de l'économie, de la société, des autres, du rapport à l'État, et que la vraie alternative, et c'est le sens du vrai grand débat public qu'il faut avoir, c'est avec celui d'une gauche renouvelée. Pour l'instant, ce qui existe, c'est le sentiment qu'il faut aller dans cette direction. Mais le travail, me semble-t-il, il reste largement à faire.
Alors cette crise du coronavirus, Pierre-Rose en Vallon, a fait surgir de nouveaux personnages et il en est un notamment qui a acquis une forme de grande visibilité médiatique, c'est le professeur Didier Raoult. Qu'est-ce qu'il vous inspire, Didier Raoult ?
Écoutez, je sais que c'est quelqu'un qui était très reconnu par ses recherches, puisqu'il était Grand Prix National de l'INSERM. Il a obtenu des subventions exceptionnelles parce que son projet apparaissait intéressant pour son hôpital marseillais. Mais peut-être qu'il y a un moment où l'ego personnel conduit certaines personnes à déraper. C'est peut-être ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est le spectacle d'un grand savant très très honorable et très inventif dont l'ego a dépassé en quelque sorte la raison, et que ça c'est évidemment tout à fait dommage.
Alors j'ai sous les yeux par exemple l'interview qu'il donne au magazine L'Express cette semaine. C'est une interview où il engueule les journalistes en leur expliquant que ceux-ci ne comprennent pas du tout la manière dont ils pensent et probablement aussi dont il faudrait penser les problèmes de santé. Et alors il dit la chose suivante sur une institution que vous connaissez bien, Pierre-Rose en Vallon, le Collège de France. Il dit « Le niveau actuel des gens au Collège de France comparé à celui du passé, c'est inouï. On devrait y mettre Piketty et Todd. Ils sont allés chercher Bourdieu et Foucault à l'époque. Il va falloir se rendre compte de ce déclin parisien, comprendre que 2 millions d'habitants qui ne sont pas meilleurs que d'autres ne peuvent pas gérer 65 millions de personnes. » Qu'est-ce que vous pensez de ce type de déclaration ?
Ce type de déclaration, vous savez, il n'y a que 45 professeurs au Collège de France, donc peut-être que lui a eu des ambitions qui n'ont pas été satisfaites, et qu'il y a au Collège de France des grands biologistes, il y a concernant justement cette compréhension du Covid, Philippe Sansonetti, qui est à la fois un épidémiologiste et puis un professeur à l'Institut Pasteur en même temps. Le Collège de France essaie en permanence d'avoir des personnalités nouvelle et innovatrice, et il vient de recruter par exemple Esther Duflo. Bon, vous citez Piketty, c'est certainement quelqu'un qui a un profil qui aurait sa place au Collège de France, mais comme les places sont chères, elles ne sont pas disponibles en permanence. Mais si vous voulez, ce qui m'inquiète dans une personnalité comme ça, c'est aussi le fait qu'il a accepté d'intervenir dans le premier numéro de la revue, enfin du magazine Front Populaire que va lancer Onfray. Donc je pense que maintenant il est passé de la vie du savant à la vie du personnage médiatique. Alors, avec tous les emballements que cela suppose. Et justement, cette revue Front Populaire, elle montre bien, il paraît qu'aussi il y a une autre revue en préparation avec Éric Zemmour et Patrick Buisson, mais une revue qui, indépendamment de ce papier de Raoult, se construit autour d'un débat rapprochement entre Chevènement, de Villiers, avec la bénédiction d'Alain de Benoît et le message de sympathie de Marine Le Pen, ça montre bien que la vie des idées, elle ne vit pas simplement à gauche, mais qu'il y a aussi une vie des idées, je dirais, très forte du populisme. Le populisme, je le répète, n'est pas simplement une colère, c'est aussi tout un ensemble d'idées positives et de propositions qu'il faut prendre au sérieux parce qu'on ne peut le combattre que si on le met à sa juste place, qui n'est pas simplement une force passagère, une force liée à la colère, une politique négative, même s'il y a bien sûr cette dimension-là dans le populisme. Il est aussi une proposition politique pour notre temps qui séduit beaucoup de gens, et le fait que il se lie ce populisme à une éclosion de publications, de revues, montre bien que sa vitalité n'est pas simplement celle d'une force de réaction, même si c'est ça en partie et pour une bonne part, mais aussi une force de proposition dont il faut mesurer totalement la puissance et l'importance, et ne pas penser que c'est quelque chose de secondaire en ramenant son écho à certains segments de la population.
Mais alors justement parce que donc Didier Raoult d'ailleurs revient sur cette revue Front Populaire, il dit je me fiche des idées politiques des gens, je n'ai pas d'idéologie, et lorsque l'on voit les initiatives de ce type se multiplier, donc cette revue Front Populaire, d'autres tribunes, etc., on voit qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'écrits, mais peu d'incarnation, c'est-à-dire que au final, Pierre Rosanvallon, on voit mal aussi bien ce que Front Populaire pourrait présenter comme candidat, d'ailleurs ce n'est pas l'ambition, je crois, de cette revue, ni même ce que le Conseil National de la Nouvelle Résistance pourrait faire dans ce même domaine. Est-ce que ça aussi, ça n'est pas un symptôme de ce moment que nous traversons ?
Il est certain que des projets gagnent à être incarnés. Mais on peut avoir une incarnation modeste si on a un projet vraiment fort. Et si on a des projets plus faibles, il faut une incarnation forte, je dirais. Et donc, nous ne voyons pas à gauche aujourd'hui des personnalités qui s'imposeraient par leur capacité à l'incarnation, à l'exception peut-être de Jean-Luc Mélenchon, mais il tient à camper sur ses terres et sur son précaré en étant peu ouvert aux autres. Alors qu'évidemment, il y a une incarnation du populisme qui est là et bien présente. Mais la gauche, évidemment, finira par avoir des candidats, et j'espère finalement un candidat en 2022. Mais cette personnalité peut être considérée comme relativement secondaire si les propositions sont suffisamment fortes. Et c'est aujourd'hui peut-être ce qui fait encore défaut. Il y a le sentiment qu'il faut avoir ces propositions. Il y a la volonté de beaucoup d'aller dans cette direction. Mais d'aller dans cette direction, ça n'est pas simplement en affirmant une ambition, en affirmant une volonté, mais aussi en entrant dans les contradictions du concret.
Merci beaucoup Pierre Rosanvallon. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le siècle du populisme, histoire, théorie, critique, paru aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, la séquence TTC avec tout d'abord la transition d'Hervé Gardat. Il est 8h46 sur France Culture.